En octobre 2022, le JIP France Tiers-Lieu et l'Association Nationale des Tiers-Lieux organisaient Faire Tiers-Lieu, la première rencontre nationale des tiers-lieux. 4 jours pour donner à voir ce qui se joue dans les tiers-lieux et les transitions qui y sont à l'œuvre. 4 jours pour nous retrouver, nous rencontrer. Nous avons pris le temps des débats, de libérer la parole, de croiser les points de vue et d'assumer notre diversité. Nous étions plus de 800 acteurs du mouvement des tiers-lieux réunis dans le tiers-lieu Blida à Metz. Les participants sont venus de toute la France pour participer à 12 tables rondes participatives pour aborder les transitions portées par les tiers-lieux et les défis du mouvement. Plus de 30 ateliers collectifs, espaces de partage entre pairs et temps de travail sur des chantiers communs, 28 témoignages inspirants et 9 groupes de travail de l'Association Nationale des Tiers-Lieux. Faire Tiers-Lieux nous a permis de faire le point et d'écrire ensemble la suite de l'histoire des tiers-lieux. Nous vous proposons de redécouvrir en 5 épisodes les débats qui nous ont réunis au sein de l'Agora des tiers-lieux, créée pour l'occasion. Les tiers-lieux sont-ils des services publics? Peut-on vraiment faire écosystème? Quel équilibre entre exploitation des bénévoles et subordination des salariés? Faut-il institutionnaliser les tiers-lieux? Lucratif ou non lucratif? Quelle est la valeur des tiers-lieux? Autant de questions qui traversent notre mouvement et ont animé nos échanges. Épisode 1. Depuis quelques années, les collectivités locales et les pouvoirs publics s'intéressent au mouvement des tiers-lieux. Il y a 3 ans, naissait l'Association de préfiguration nationale des tiers-lieux et l'État lançait une politique nationale de soutien aux tiers-lieux. Aujourd'hui, la préfiguration est terminée, l'Association nationale des tiers-lieux a fait évoluer sa gouvernance pour réunir la diversité des tiers-lieux et porter la voix du mouvement. Elle a créé avec 4 ministères et l'ANCT le groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux afin de soutenir le développement des tiers-lieux partout en France et de renforcer les liens entre les politiques publiques et les tiers-lieux. Découvrez dans ce premier épisode un débat sur l'institutionnalisation du mouvement des tiers-lieux animé par Sébastien Plion, vice-président de l'Association nationale des tiers-lieux. Et pour ouvrir le débat avec lui, Patrick Lévivetz, président du groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux, Juliette Bonpoint, directrice générale de la SIC La Main foncièrement culturelle, et Johan Duriot, cofondateur du Movilab et du réseau des tiers-lieux libres et open source.
C'est moi, monsieur. Je vois ça. Sale capitaliste.
C'est ça. Capitaliste de gauche. Même pas ?
Alors bonjour tout le monde. Bienvenue sur le débat politique, le premier de Faire Tiers-Lieux. Donc je vous rappelle que nous sommes dans un contexte de plateau radio pour la première grosse demi-heure qui nous attend, où on va débattre ensemble du thème de l'institutionnalisation du mouvement des tiers-lieux. Le plateau radio a été dépêché par le tiers-lieu, le WIP, situé en Normandie. Et donc c'est une installation spéciale. Donc j'espère que vous entendez bien. Et si vous n'entendez pas...
Oui, on peut
pas,
applaudir le WIP.
J'espère que vous entendez bien. Et si vous n'entendez pas, parlez moins. Ça fera un peu moins de bruit dans la salle. Voilà. On est parti pour une grosse demi-heure de débat entre nous sur le plateau radio. Et ensuite, on viendra dans l'espace au centre ici pour débattre avec vous dans un mode qu'on appelle le fishbowl ou le cercle samoan, qui est en fait les gens qui sont au centre du cercle ont le droit de parler, et une fois qu'ils ont dit quelque chose, ils doivent sortir du cercle. Donc ça, on fera ça après. Voilà. Alors je vais lancer le sujet aujourd'hui sur le sujet de l'institutionnalisation du mouvement des tiers-lieux. Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques années, les pouvoirs publics s'intéressent au mouvement des tiers-lieux, les collectivités locales ont commencé à le faire avant l'État, et il y a maintenant 4 ans, l'État a lancé sa politique publique autour des tiers-lieux. Et donc, lorsqu'il a lancé sa politique publique, il a décidé de parler au mouvement des tiers-lieux, il lui a demandé, de se structurer, et donc ça a permis de lancer l'Association nationale des tiers-lieux, France Tiers-Lieux, qui a déjà... près de 4 ans d'existence. Et donc beaucoup de tiers-lieux viennent nous voir ou discutent pour nous dire « Ah, mais maintenant, le mouvement des tiers-lieux, c'est plus ce que c'était, maintenant que c'est institutionnalisé. » Donc ce sont des propos qu'on entend souvent. Donc on a eu envie de mettre cette question-là au centre de la table aujourd'hui et de faire débattre 3 personnes que je vais vous présenter, avec Juliette Bonpoint, qui est la directrice générale de la SIC La Main, et que je remercie d'être là. Je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà. Johan Duriau.
Attends, elle est vice-présidente de l'association.
Ouais,
Mais tu pourras le dire tout à l'heure, je te laisserai la parole.
Ah, vous êtes trois de France Tiers-Lieux, il faut le rappeler quand même.
Voilà. Il y a Johan Duriau, l'historique, le Tilios, et qui relance aujourd'hui la POC. Et tu vas nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi tu as décidé de descendre de tes arbres pour revenir dans le mouvement des Tiers-Lieux, que tu n'avais jamais vraiment quitté finalement. Et Patrick Lévivette, qu'on ne présente plus, président de l'ANTL, du GIP France Tiers-Lieux, et qui va débattre avec nous aujourd'hui. Donc effectivement, comme le souligne Johan, tu es entouré de membres de l'Association Nationale des Tiers-Lieux, puisque je suis moi-même vice-président de l'Association Nationale des Tiers-Lieux.
Il y a beaucoup de présidents.
Voilà, c'est ça. C'est une armée, c'est un truc de chef à plumes, là. Alors, sur la question des... On va lancer la première question, puis après je vais vous demander de chacun prendre la parole... et de développer votre propos. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment vous voyez les tiers-lieux et le mouvement des tiers-lieux. Est-ce que c'est avant tout le tiers-lieu, c'est avant tout un contre-pouvoir? C'est qu'on en parle beaucoup. C'est un mouvement de résistance. Est-ce que c'est avant tout quelque chose qui s'est construit contre une situation qui paraissait dégradée et qui doit préserver son indépendance? Ou est-ce que à l'heure de l'institutionnalisation, en fait, c'est pas un endroit où justement on va construire des partenariats avec l'institution publique? Et donc Juliette, j'aimerais, toi qui œuvre déjà dans les lieux, mais bien avant que ça s'appelle tiers-lieu, les lieux intermédiaires, vous avez été confrontée aussi à cette tension dans les lieux. Qu'est-ce que tu penses de cette tension qu'il y a entre contre-pouvoir et partenariat avec les institutions publiques?
Qu'est-ce que j'en pense? C'est un bon sujet. Alors effectivement, moi je l'ai souvent regardé sous l'angle politique culturel, c'est-à-dire d'être vraiment en tout cas dans une volonté de co-construction des politiques publiques, et ce qui a toujours en tout cas créé des difficultés, on va dire. Ça n'a pas toujours bien fonctionné. Quand parfois ça a fonctionné, je pense avec Actif, quand on a co-construit le dispositif Fabrique de Culture qu'on a obtenu, et ensuite il a redisparu, puis après il faut recommencer, réexpliquer, puis après les tiers-lieux arrivent, et dans tiers-lieux il n'y a pas culture, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment un sujet qui n'a pas fonctionné, mais je pense qu'il y a une envie en tout cas de raconter quelque chose, et que dans la réalité il y a quelque chose qui ne pourra jamais fonctionner. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut créer des espaces du laisser-faire, de l'innovation, etc., c'est compliqué d'apporter une politique publique dessus. Après, pour moi, il y a quand même un besoin de reconnaissance, et c'est ce qui a fonctionné, j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui avec France Tiers-Lieux, c'est d'apporter une identification, quelque chose qui dit en tout cas que ça existe, qui a des difficultés à raconter l'intégralité de son histoire, etc., mais qui quand même... reconnaît un mouvement, un fonctionnement, et que ça, c'est déjà beaucoup en fait pour une politique publique qui était, si on était complètement invisible, c'était une vraie difficulté. Donc là, une fois qu'on sort un peu du bois, qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas encore dans les dispositifs aujourd'hui de 3 fois 50 000 euros qu'on va trouver une solution, ou en tout cas quelque chose de pérenne et de fonctionnel, mais qu'on progressivement, en tout cas dans les différents échanges, on arrive à chercher en tout cas les bons fonctionnements. Nous, on a vraiment interrogé la question du foncier, qui pour nous pourrait être un levier intéressant de positionnement des politiques publiques sur ce sujet.
Quand tu dis nous, c'est les acteurs
Les acteurs, je pense qu'on est nombreux à avoir permis en tout cas de soulever ce sujet qui n'existait pas, qui était même plutôt tabou ou interdit au début des mouvements de ces lieux-là.
Parce qu'on était plutôt sur les questions de l'éphémère, du transitoire, c'est ça ?
Et que le temps passant, la pression immobilière, etc. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que pour moi, c'est une des solutions que je vois venir comme une solution du futur. Je pense qu'il y en a peut-être plein d'autres, mais en tout cas, dans le modèle classique de type labellisation, de dire voilà, vous êtes un tiers-lieu, on va vous donner un label, ça, j'y crois pas du tout, parce que je pense que ça enfermera les acteurs dans quelque chose auquel ils ne peuvent pas répondre, puisque par définition, ils doivent porter une transformation constante et donc ne pas s'enfermer dans des critères classiques.
Ouais. Alors sur la question de la labellisation, je me tourne vers toi, Johan, parce que Tu le dis souvent et tu l'as répété hier, les tiers-lieux au début, c'est un mouvement de la loose, comme tu dis. Et donc, de la loose, ça veut dire qui se fait en dehors des radars, qui s'est fait sans les pouvoirs publics au début. Comment toi, tu vois les choses sur la thématique du contre-pouvoir, en fait ? Est-ce que c'est un contre-pouvoir ? C'est comme ça que tu le définirais ?
Alors, c'est pas forcément la notion de contre-pouvoir. Sans l'exposé qu'on a fait la Biennale du Design en 2017, pour ceux qui ont vu l'exposition Fork the World, c'est pas moi qui, en plus, ai la prétention de dire c'est ça la vérité. C'est une co-construction. En fait, c'est pas forcément un contre-pouvoir. C'est un endroit, un lieu de rencontre où on va pouvoir faire des contre-pouvoirs. Donc dedans, on peut être aussi un élu, on peut être un assesseur associatif, on peut être un chef d'entreprise. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est interstice, puisque c'est un interstice, où vont jouer justement des frictions, des désaccords. Et c'est ça qui est chouette dans le tiers-lieu, c'est qu'on va avoir des personnes d'univers différents, voire contradictoires, qui vont faire une rencontre et ils vont s'autoriser à ne pas être d'accord. Par exemple, je crois que ça a été beaucoup débattu de l'intervention d'hier, visiblement, avec monsieur le maire de Metz, visiblement, il ne faudrait pas nous mettre ensemble. Mais moi, je suis au contraire persuadé que si on faisait tiers-lieu tous les deux, on serait beaucoup plus productif que si on était entre convaincus de tel mouvement ou de tel syndicat ou telle chose. Moi, c'est pourquoi on fait tiers-lieu, en fait. Donc la notion de contre-pouvoir, je ne sais pas si elle est importante. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui sort de ces frictions et qu'est-ce qu'on en fait. Et après, que ça soit pour faire des politiques publiques ou que ça soit pour créer un nouveau produit, un nouveau service, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que le tiers-lieu produit ? On l'a toujours dit à Movilab, un tiers-lieu, ça ne se définit pas parce qu'on en dit, mais pas parce qu'on en fait, en fait.
Ok, donc cette notion de produire des choses, donc peu importe finalement quel est le statut de la personne qui vient dans le tiers-lieu, c'est les conditions de la production qui sont intéressantes et du faire, en fait. C'est ce qu'on appelle la duocratie.
Duocratie, le just fucking do it power aussi, qui est assez intéressant. C'est pas se poser de questions avant, c'est d'agir.
C'est mieux en anglais, hein, c'est sûr.
On est tous dans les acronymes à la con, en fait. C'est pas forcément de l'anglais. Mais moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est pourquoi on a fait tiers-lieu à un moment donné. C'est parce qu'on a tous essayé, les acteurs d'économie sociale et solidaire, les gars des pépinières d'entreprise à la papa, les start-up, les gens d'entrepreneuriat social ou autre. Et en fait, on voyait qu'il y avait un dysfonctionnement. Moi, je viens aussi du syndicalisme. Alors pas le plus énervé contrairement à ce qu'on peut croire de moi, mais en tout cas voilà, je viens du syndicalisme et à un moment j'ai vu que ça marchait plus, en fait. On peut plus, d'ailleurs on se pose des questions, on écoutera notre Premier ministre ce soir, mais on se pose des questions sur la société actuelle et on voit bien qu'il suffit pas d'aller manifester dans les rues, il faut aujourd'hui coproduire et de façon différente. Et moi, c'est là que ça me plaît de faire tiers-lieu. Et pour alimenter le débat, je ne sais pas si ce que je vis aujourd'hui avec France Tiers-lieu, vous êtes trois représentants, vous allez peut-être m'expliquer pendant ce plateau, je ne sais pas si le fait qu'il y ait eu de l'argent de mis dans l'univers des tiers-lieux, c'est ça l'institutionnalisation. Je ne sais toujours pas ce que c'est institutionnaliser. Moi, j'ai juste vu les centres sociaux se faire institutionnaliser. On voit le bordel aujourd'hui dans les quartiers. J'ai juste vu, effectivement, le coworking se faire institutionnaliser. Aujourd'hui, on ne parle plus de coworking, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était le top du top. D'ailleurs, vous avez commencé, à ma connaissance, la première mission, c'était sur le coworking et les télétravails. Je rappelle, j'ai fait 3 tours de France du télétravail des tiers-lieux, donc c'est un sujet qui me parle. Et aujourd'hui, tout ça, ça s'est institutionnalisé avec de l'argent. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc ma question, est-ce que c'est ça, cette table ronde, de parler, on institutionnalise parce qu'on met de l'argent ? Ça, je ne sais pas.
Alors Patrick, je me tourne vers toi. Donc toi qui as vécu de l'intérieur, en fait, hein, ce mouvement de l'institutionnalisation, avec effectivement, comme le rappelait Johan, des programmes, les manufactures, les fabriques de territoire, mais aussi une reconnaissance du mouvement à travers une forme d'institution que sont l'Association nationale des tiers-lieux et le GIP. Comment tu vois un peu cette relation avec les pouvoirs publics et est-ce que d'après toi, elle peut être féconde ?
Bon, il ne faut pas qu'on s'endorme. Attends, je trouve Johan très très doux ce matin et je ne voudrais vraiment pas que tu sortes frustré du débat. Écoutez, même c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand toi tu as, Sébastien, posé le terme du débat, tu as dit au fond l'État a voulu nous reconnaître, enfin, je ne sais plus quelle formule tu as utilisée, mais en fait ce n'est pas l'État qui a voulu le faire. Le processus qui s'est enclenché, il est documenté, il est même documenté sur Movilab autant d'ailleurs que sur le site de France Tiers-lieux. C'est à un moment donné une question des pouvoirs publics français sur travail, territoire, numérique, qui produit à ce moment-là, qui est confié à un énergumène, il se trouve que c'est moi. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire un truc seul, c'est de faire avec les gens qui font. je ne vais pas refaire toute l'histoire. Enfin, le premier rapport, c'est stricto sensu ce que demandent les acteurs. Ils demandent trois choses essentiellement. De la reconnaissance, les acteurs, je veux dire. Donc,
la considération, pas de la reconnaissance.
Johan, ton mot, c'est de la considération. Nous, c'est de la reconnaissance. Les mots, les documents qui sont... on n'est pas reconnu.
Peut-être. Pas besoin d'être reconnu. En fait, la reconnaissance, je me permets juste de te couper, c'est important ce mot-là. La reconnaissance, je l'ai par mes pairs, mais la considération de prendre en compte le travail qui a été fait, c'est ça.
Johan, je ne suis pas en train de débattre sur le mot, je suis en train de dire ce que les acteurs à ce moment-là demandent. Ils demandent de la reconnaissance. C'est des documents de travail et des groupes de travail qui ont été faits. Moi, je prends le mot. La demande de reconnaissance. Je pense que tu as raison, par ailleurs, c'est mieux plus de la considération, à titre personnel. Il est demandé de la reconnaissance, il est demandé des moyens, deuxième élément, et il est établi par les acteurs qu'il faut qu'on s'organise, on n'a jamais réussi à s'organiser. Et donc il faut, d'une manière ou d'une autre, qu'on arrive à s'organiser. Ce qui sort de là, Sébastien, à ce moment-là, c'est la traduction que je crois assez fidèle à la demande, à la fois la structuration d'un mouvement au travers de l'Association nationale de préfiguration, des moyens mis sur des outils un peu structurants, et ça a été corrigé au fur et à mesure pour que ça soit au plus proche de ce qui nous remontait du terrain, même s'il y a eu des erreurs au début. Et troisième élément, ce mouvement au fil du temps qui a produit la reconnaissance par les acteurs de cette structure de préfiguration comme étant fêtier de quelque chose de collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, le débat n'est pas entre l'institutionnalisation, dont je rappelle, je l'ai repris parce que c'est important pour nous tous. L'institutionnalisation, c'est largement utilisé, je le lis pour ne pas me faire d'erreur, dans l'hétéro social pour désigner le processus de placement de quelque chose dans une organisation. Et donc, c'est normal qu'il y ait une demande de considération ou de reconnaissance. C'était la volonté des acteurs d'être reconnus comme quelque chose au sein de ce qu'est la société française. La question de l'institutionnalisation, ça n'est évidemment pas de l'argent. Parce que l'argent, d'abord, si on est dépendant en permanence par injonction publique, de toute façon, à un moment donné, on ne devient plus autonome, on ne devient plus libre et plus capable de faire. L'institutionnalisation, c'est la capacité à être reconnu, considéré par les autres comme étant un acteur majeur de la société. Et il me semble que ça, c'est tout à fait central pour que précisément la mission des tiers-lieux qui consiste précisément à faire des contre-pouvoirs, à se réunir, à faire tiers-lieux, à faire dans un lieu exercer des contre-pouvoirs tels que tu l'évoquais, puisse irriguer la société. Et donc je ne crois pas à une institutionnalisation autre que celle-là, parce que si c'est l'autre, celle qui a conduit les ESN, les pépinières, d'ailleurs vous vous souvenez les trucs d'entreprise là qui se passaient, comment on appelait ça, à l'extérieur.
Il y en a eu beaucoup, hein, des trucs d'entreprise.
Des trucs d'entreprise à l'extérieur des villages et des villes et qui externalisaient au fond l'activité économique et sociale et qui en fait n'a jamais fonctionné, a fait de la gabegie publique. C'est justement cette institutionnalité qu'il faut éviter. Et donc, il me semble que le débat, c'est où commence et où doit s'arrêter cette une dite institutionnalisation, à quelles conditions on l'accepte et qu'est-ce qu'on refuse. Ça, c'est un sujet central. Mais je ne crois pas que la question de l'institutionnalisation soit un sujet en soi.
Et alors, Johan, tu évoques souvent des tentatives, des mouvements qui ont existé avant France Tiers-Lieu. Tu disais que le mouvement existait avant, donc est-ce qu'il y a eu des coalitions que tout le monde ne les connaît pas? On a beaucoup discuté pendant la journée d'hier avec des gens qui ne connaissent pas en fait l'histoire du mouvement ni d'où ça vient. Donc est-ce que toi, tu peux nous donner quelques éléments comme ça, chronologiques, sur comment ce mouvement s'est structuré pour en arriver aujourd'hui là où il est?
Alors, je ne vais pas faire le rôle d'historien, ni d'archéologue, ni d'anthropologue. En tout cas, ce que je peux dire, pour avoir travaillé beaucoup avec Antoine Buret, donc, qui est le sociologue des tiers-lieux, ça je le maintiens, Oldenburg n'a rien inventé, il n'a rien fait. On est en 1989, on est aux États-Unis, il n'y a même pas Internet qui existe, on est encore à ARPANET. Et en fait, il étudie le pendulaire entre les zones rurales et les zones urbaines. Et comme on a horreur du vide, dès qu'on a commencé à parler des tiers-lieux, qui est encore un objet non identifié fin des années 2000, donc 2008 à peu près, en France, évidemment, au début, ben, tout le monde rigole. En plus, on voit les gars à cheveux blancs arriver en disant « ce que tu me dis, ça a toujours existé ». Et puis après, il y a le vide. Et donc, pour être très clair, aujourd'hui, ce qu'on a cherché pour comprendre un peu ce phénomène des tiers-lieux, c'est que le tiers-lieu à la française, et surtout pas à la Oldenburg, alors je rassure tout le monde, oui, on veut changer la page Wikipédia, sauf qu'aujourd'hui, elle est très occupée par des groupes et qui payent des gens pour la mettre d'actualité, et donc on a des problèmes là-dessus. Mais Oldenburg n'a rien à voir avec les tiers-lieux. En France, je parle, en France.
Pourtant, il est cité à chaque fois comme étant...
Et y compris chez des potes, tout le temps. Ils font tout le temps cette connerie en disant « Allez, je vais le mettre au début, ça fera sérieux. » Sauf que la réalité, elle est plutôt avec main-d'œuvre, par exemple, à savoir les lieux intermédiaires. C'est plutôt dans ces lieux-là alternatifs qu'on a vu arriver le concept de tiers-lieu. Moi, personnellement, le plus vieux que j'ai trouvé sur des traces écrites, c'est du côté de Marseille, en 72, où il y avait déjà ça dans des rapports. La seule chose, et j'aimerais moi aussi t'entendre dessus, c'est, on en a parlé juste avant le plateau, c'est que moi, je dis, c'est pas les tiers-lieux tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que c'était des lieux intermédiaires, des lieux où on faisait des frictions, mais entre convaincus. Alors, soit entre punkachiens, soit entre tuffers, soit entre... Et moi, je suis plutôt de ce milieu-là, mais Johan, en tant que personne, si je reprends le costume de super concierge, c'est pas ces tiers-lieux-là qu'on a inventé. Ceux-là, ils sont arrivés avec le numérique, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on est un milieu de libristes, et en fait, on vivait sur Second Life, on vivait sur Twitter, Facebook, mais les débuts. Celui, on vivait des trucs dans la vraie vie, on prenait des photos et on les partageait aux autres. Aujourd'hui, en fait, on se fait chier dans la vraie vie et on va sur Facebook et Twitter pour voir ce qu'on pourrait faire. Donc, on était encore dans ce milieu-là et on estimait qu'on était privilégiés. Je ne sais pas si vous avez connu Second Life, c'est un endroit où j'ai perdu mon âme et pas mal de choses. Mais qu'est-ce que c'était cool, parce qu'on faisait des tiers-lieux, en fait. Moi, j'ai organisé le concert d'Alicia Keys, quelqu'un de très bien dans Second Life. Et dedans, il y avait un directeur de la DDE du Puy-de-Dôme. Dedans, il y avait un chômeur de Lille pour rester dans les clichés. Et en gros, c'était ça qui était chouette. Et à un moment, on s'est dit, mais on est hyper privilégiés, on est 5-10%. Comment on pourrait vivre ça dans la vraie vie? Et c'est là qu'on a commencé à parler de tiers-lieux. Donc là, on est plutôt 2008-2010. Sachant que vous le savez, il y a la ruche à Paris et la cantine qui étaient deux endroits assez emblématiques qu'on n'appelait pas encore tiers-lieux, qu'on appelait ça des coworking, des choses comme ça, mais on sentait qu'il y avait un prémisse qui se passait autre chose en fait. Donc c'est les débuts de ça, des tiers-lieux, et après je sais pas, je vous l'ai dit, sociologue, anthropologue. Par contre, j'ai envie d'écouter aussi main d'œuvre parce que je pense qu'il y a une chose à raconter sur ça. C'est vrai qu'en France, disons-le clairement, on est plus proche de main d'œuvre qu'Oldenburg, quoi. C'est ce que je pense.
Oldenburg, sur le sociologue américain. Mais alors Juliette, t'en penses quoi? Tu revendiques cette paternité-là, cette histoire qu'on est en train d'écrire là,
Effectivement, enfin, en tout cas, je pense que c'est important de resituer en tout cas l'expérience de ces lieux-là, le réseau Transeuropal, le réseau Art Factory, ce qui existe depuis le début des années 80. Enfin, ça raconte quelque chose. C'était, oui, un peu des coworking d'artistes, mais avec, pour moi, toujours, c'est ce qu'on disait un peu avant, c'est-à-dire, en tout cas, main-d'œuvre au départ, il y avait déjà des séminaires de banquiers, il y avait déjà des légumes, des vélos. C'était pas des lieux exclusivement artistiques, et c'est justement ce qui venait interroger à l'époque déjà une ouverture un peu différente, une pensée même de la notion de culture elle-même, et que je pense que ça reste très fort. Et que pour moi, après, quand d'un coup la politique publique parle de tiers-lieux avec des références diverses et variées, l'enjeu, c'est de dire voilà, qu'est-ce qu'on veut financer avec des moyens publics et qu'est-ce qui doit se financer. Et là, il faut effectivement porter une valeur d'intérêt général ou quelque chose qui peut se perdre facilement, en tout cas dans des espaces qui pourraient se reconnaître dans la notion de tiers-lieu, mais qui n'en sont pas, quoi.
Qui pourraient se perdre, c'est-à-dire qu'ils sont... Tiers-lieu, c'est tellement vague finalement qu'on peut y mettre un
c'est
peu
ça.
Tout ce qu'on
en
veut.
C'est ça. En tout cas, il y a plusieurs difficultés, je pense, dans le dialogue avec la politique publique. C'est que, d'une part, effectivement, tiers-lieu peut recouvrir tout et n'importe quoi. Et d'autre part, il y a quelque chose qui est difficilement valorisable, en tout cas, dans la manière de financer ces lieux. Donc, après, je pense que chaque histoire est différente et qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. C'est juste, effectivement, comment est-ce que, collectivement, on arrive à construire une proposition intelligente plutôt que de se perdre, à essayer de se distancer les uns des autres, quoi.
Et comment, dans cette histoire qu'on raconte, Patrick, toi qui es un entrepreneur, qui ne vient pas de ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as trouvé de l'écho par rapport à ton travail et tes trajectoires personnelles et tu t'es dit, tiens, moi j'ai envie d'aider ce mouvement et de prendre la présidence de l'association. Qu'est-ce qui t'a interpellé en fait et en quoi tu as vu un parallèle avec ton action à toi ?
Je ne sais pas si j'irai jusqu'à... Non, moi ce qui m'a interpellé le plus, c'est que c'est sans doute un des seuls endroits qui reste... comment dirais-je, qui existe aujourd'hui. Je parle là des tiers-lieux de façon générale, et évidemment, je reviendrai sur ce qu'a dit Juliette il y a un instant, mais où on fait société. C'est-à-dire qu'au fond, où on se parle, où on débat, où on n'est pas d'accord, où on est même en désaccord, mais où le désaccord est constitutif de quelque chose de fécond. Ou quelque chose qui nous permet, au fond, de continuer à créer. Juliette parlait d'une autre façon de faire de la culture, d'une autre façon, je dirais, de travailler, d'une façon d'échanger, d'une autre façon de prendre, au fond, de prendre à bras-le-corps les sujets de société tels qu'ils sont, pas tant qu'on aimerait les voir, tels qu'ils sont pour essayer tout simplement de faire que notre société soit une société un tout petit peu plus bienveillante qu'elle ne l'est aujourd'hui. À ce titre-là, les coups de gueule, y compris les questions de contre-pouvoir, moi, j'ai pareil pour tout à l'heure à ce que disait Johan sur le contre-pouvoir, je pense qu'il y a un devoir d'alerte à minima et de contre-pouvoir à opérer. La question, c'est sur quoi ? Et deuxième élément, quand je regarde l'histoire qui s'est opérée, moi, j'ai fait beaucoup d'humanitaire pendant le début de ma processus professionnel. Je déteste le mot carrière, parce qu'on ne fait pas carrière, mais en fait, on développe au fur et à mesure du temps des compétences et puis la vie fait qu'on rencontre. Et pendant cette période-là, ce qui m'avait frappé, c'était le caractère fermé du monde humanitaire. Le monde humanitaire des années 80. Il y a des organisations humanitaires. Et en fait, les citoyens près de chez eux font de l'humanitaire souvent, soutiennent. Et donc, ce qui me frappait, c'était la fermeture d'un système qui, au fond, s'était tellement institutionnalisé, tellement financé par les institutions internationales notamment et dans chaque pays, qu'au fond c'était devenu des entreprises plus que qui avaient le même problème, qui étaient plus dans la gestion que dans le sujet lui-même.
Donc tu veux faire le parallèle avec ce qui attend les tiers-lieux, c'est ça ?
C'est évidemment le sujet qu'on doit éviter. C'est évidemment cette spontanéité qui doit être maintenue. C'est évidemment celle-là qui doit être protégée de façon importante. Et ce que je voudrais juste dire de l'histoire, puisque tu me poses la question, ce qui est tout à fait singulier dans les tiers-lieux, dans ce qui est en train de se passer, c'est que la société a profondément évolué depuis Oldenburg, profondément évolué depuis les années 60. Jamais des révolutions aussi importantes ne se sont produites. La révolution numérique, elle est aussi importante que celle à l'échelle du jour où il y a eu la naissance de l'électricité, voire même de l'écriture. Parce que le numérique embarque tout sur son passage. Et là-dessus, Johan a parfaitement raison. Ça change la nature des tiers-lieux, puisque, de toute façon, ça change la nature de nos sociétés, avec ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de beaucoup moins bien, et sur lequel les tiers-lieux arrivent à concilier et, au fond, à faire vivre quelque chose de mon point de vue, assez singulier. Donc, quand on est dans cette histoire qui se transforme pour nous tous, l'histoire du monde, on voit à quel point le monde est en train de basculer. Peut-être va-t-on commencer à percevoir un petit soleil au bout du tunnel, compte tenu du fait qu'on a le sentiment ces derniers temps qu'il y a des choses un peu, comment dirais-je, on revient à des choses un peu normales, un peu saines dans les débats publics. Mais sur le fond, je crois que la question centrale qui est devant nous, c'est comment réussir à la fois, comme tout le monde sait que j'aime bien ce mot, craquer des institutions qui sont encore organisées comme dans les années 50, dans les années 60, comme au début du siècle, verticales, descendantes, alors que les hommes à l'intérieur de ces organisations en souffrent. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les hommes du système institutionnel, ils en souffrent. Ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir partager ce mode-là. Ils ont été complètement organisés comme tels. Donc, comment on arrive à craquer cette société pour qu'elle devienne plus horizontale au sens de plus de confrontation fécond, positif, c'est un mot que tu aimes bien. Et en même temps, donc pour le faire, il faut aussi utiliser un peu de ces codes, sans jamais se perdre dans ses codes. C'est ça la force d'un mouvement qui sera pluriel et qui rappellera à chaque fois les tensions, qui les mettra au cœur du système et qui permettra au mouvement de ne pas se perdre. Il faut que ces tensions existent dans le mouvement parce qu'il faut qu'on soit capable de les mettre devant nous, de les mettre au cœur du débat. C'est ce qu'on fait ce matin et c'est ce qu'on doit faire en permanence. Il n'y aura pas de mouvement institutionnalisé utile, il sera même inutile si on n'est pas capable d'avoir ces tensions à l'intérieur de l'organisation, du mouvement des tiers-lieux que vous portez tous à partir du terrain, à partir des réalités quotidiennes que vous vivez et que nous faisons vivre tous ensemble.
Alors moi, je voulais réagir, mais je l'aime beaucoup parce qu'il dit tellement de trucs qu'il pourrait être à la tête de Tilios et en même temps être, je pense, le patron du CAC 40, et c'est ça que j'aime bien chez Patrick. Moi, il me parle de spontanéité, et en fait, ce qui est assez marrant sur la spontanéité, c'est que on arrive au vrai point de différence. Voilà, t'inquiète, c'est pas parce que je suis poli et très bienveillant, et j'ai envie de continuer de l'être, puisqu'on est là, au contraire, pour construire ensemble, co-construire, et pas jouer au combat de coq. Pourtant, j'adore le coq de Bida. On m'a dit que je pourrais peut-être mettre le masque avant de partir, donc j'ai hâte de le revoir. On se voit avec Chris. Pour être plus sérieux, en fait, c'est la notion de spontanéité. C'est-à-dire qu'en fait, justement, moi, j'ai pas attendu France Tiers-Lieu, et vous en doutez bien, vous non plus, mais c'est en train de prendre une forme où vous avez décidé de dire c'est des lieux. Et aujourd'hui, moi, je vous en veux à France Tiers-Lieu, là, je fais exprès de prendre, vous êtes trois présidents, trois vice-présidents. En fait, c'est que moi, j'étais très content quand vous êtes arrivé. Je commençais à aller dans mes arbres en 2017 et j'étais très content de me dire, ça y est, on va parler plus largement du tiers-lieu. Et vous savez, dans tout mouvement, il faut aussi faire de la place et c'est très bien. Mais par contre, c'est que moi, j'ai un problème, c'est que je ne peux plus parler du tiers-lieu tel qu'on l'a conçu, tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on l'a fait en allant dormir chez les canapés des uns et des autres, en s'occupant des enfants, en s'occupant des amis. Et on ne peut plus le dire. Aujourd'hui, si je dis un tiers-lieu, c'est une configuration sociale, j'ai un nouveau directeur. Alors, je connaissais l'ancien directeur, mais j'ai un nouveau directeur. Je pense qu'il va nous falloir encore 2 jours pour se comprendre. Alors que, voilà, Nicolas, il a fallu aussi que je lui explique 2 jours. Il n'y avait rien à voir. Mais en tout cas, voilà, vous nous avez supprimé ce fait qu'un tiers-lieu, ce n'est pas 4 murs, c'est une configuration sociale. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un énorme bâtiment pour pouvoir faire tiers-lieu. Et moi, qui viens de l'économie sociale et solidaire, qui travaille dans les banques, dans les assurances, je trouve que c'est une perte de temps et d'argent de devenir concurrent. Moi, je vous le sais, en tant qu'arboriste, allez sur YouTube, j'en ai parlé, c'est le côté des champignons. Arrêtez de fabriquer des arbres. Des arbres, ça coûte, ça prend du temps. Et les arbres, en fait, c'est l'éducation populaire, c'est des centres sociaux, c'est des institutions, c'est des médiathèques, des bibliothèques, elles sont nombreuses dans la salle. Ça, prenez-en soin, en fait. C'est la culture, c'est pas des tiers-lieux, ça. Ça doit être des vrais lieux. Par contre, faisons des petits champignons. Vous savez, le mycélium. Et faisons des champignons pour que tout ça, ça fonctionne mieux. Et c'est là-dessus, je trouve qu'on s'est perdu, en fait. Et qu'aujourd'hui, vous nous proposez du fer dans les manufactures, il faut des Fab Labs, il faut des imprimantes 3D, il faut des gros budgets. Ben non, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour que les structures actuelles, la Croix-Rouge, tu parles d'humanitaire, comment la Croix-Rouge, qui a fait un programme sur les tiers-lieux, comment eux, ils font tiers-lieux pour que ça aille mieux. Et ça, vous avez une solution, mais en tout cas, vous m'avez confisqué quelque chose. Donc je me sens un peu embêté, parce que moi, je veux faire tiers-lieux dans les arbres.
On a volé quelque chose.
Ouais, alors, ça marche là ? En fait, effectivement, tu l'as dit toi-même, les tiers-lieux, c'est pas ce qu'on en dit, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est justement en partageant et en ne laissant pas fermer, genre non, toi, t'es pas un tiers-lieu, t'es pas comme nous, en ne restant pas dans nos lieux comme si c'était nous qui avions raison, en tout cas, mais en partageant. Et je crois qu'au fond, effectivement, la question, c'est pas est-ce qu'on peut institutionnaliser les tiers-lieux, c'est plutôt comment est-ce que on va tiers-lieuiser les institutions. En fait, c'est ça le travail, c'est ça le chemin, c'est ça qu'on fait peut-être, que Marthe a dit un peu, avec l'État, c'est-à-dire comment ils font des efforts d'innovation publique à certains endroits à force de traîner avec nous, c'est-à-dire, mais tranquillement, doucement, d'interministériel, puis d'interdirectionnel, puis d'interdisciplinaire et machin. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on défend, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit, c'est ce qui peut-être sauvera le monde. De dire, en tout cas, on n'a rien à défendre, on ne se défend pas nous-mêmes, on ne se défend pas. Si on peut inspirer tout le monde, on le fait. Enfin, je veux dire, après, que chacun dans son lieu porte des valeurs de gouvernance collective, pourvu que ça dure, de transition écologique, d'anticapitalisme, d'antiracisme, d'anti-tout ce que tu veux, c'est hyper important. Mais ça, c'est au quotidien qu'on le fait. C'est pas dans la manière dont collectivement, on est tous d'accord. On ne sera jamais tous d'accord, pourvu qu'on ne le soit pas. Par contre, on est en capacité et suffisamment des gens intelligents pour être capables de se réunir dans une pièce et de parler ensemble de trouver des désaccords, d'en discuter longuement, mais de pas se dire on va rester entre nous, enfin en tout cas moi sur les lieux culturels qui effectivement sont là depuis toujours, qui effectivement n'ont pas obtenu ce qu'ils auraient dû obtenir depuis longtemps parce que la politique culturelle elle était elle-même dans un sujet très étriqué de la définition de la culture, etc. En tout cas, on, tu vois, pour moi, on progresse dans... Bien sûr qu'on va continuer à aller dans les arbres. Fazette Bordage, qui a créé le confort moderne à Poitiers dans le début des années 80 et qui a fondé Mondard, bah, elle crée un lieu dans les arbres en ce moment. Évidemment, et pourvu qu'on soit là pour l'aider à le construire toujours. Mais ça n'enlève pas l'idée d'avoir un espace national. Bon, alors après, voilà, avec à nous d'être représentés dedans et correctement représentés.
Mais moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que je suis intéressé à la biodiversité et je pense qu'il peut y avoir des champignons et des arbres. Qu'une société, c'est pas ou des champignons ou des arbres.
J'ai jamais dit ça.
Non, je sais.
Un arbre, c'est 300 ans à faire vivre.
Mais je le dis à dessein, Johan. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment qu'il faut qu'il y ait des champignons. Évidemment, il faut que ça puisse se faire en proximité. Et évidemment que ça continue à se faire. La réalité, c'est que ce n'est pas la puissance publique qui a fait passer de 0 à 1500 tiers-lieux, fût-il ceux qui n'étaient pas ceux que vous avez portés originellement. Ça s'est fait parce que des citoyens se sont engagés à faire, ont voulu organiser, faire, développer. Et ce n'est encore pas la puissance publique qui est passée de 1500 à 3500.
Excuse-moi, mais Patrick, alors enfin, réponds-moi s'il te plaît. Ça fait en fait 5 ans que j'attends de te voir pour ça. À partir du moment où le tiers-lieu est une configuration sociale, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, c'est d'une configuration sociale. Comment tu as pu mettre dans ton rapport qu'il y a 3000, 5000, 10000? T'as fait quoi? T'as joué au dé? T'as fait un truc? En fait, si c'est une configuration sociale, que ça soit la machine à café dans une entreprise, que ça soit dans un centre social, ça veut dire qu'il y a des tiers-lieux qu'on voit même pas, mais ils sont en train de faire tirer. Mais c'est une vraie question, elle est bienveillante. Hein. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais je dis, un jour, je lui poserai la question. Mais comment il fait pour mettre 3000, 5000?
Mais en fait, il ne faut pas me demander à moi. Il faut demander aux acteurs qui sont dans la salle. On a interrogé les réseaux tiers-lieux. Alors, est-ce que les réseaux tiers-lieux, on devait choisir ceux qui se reconnaissaient dans le tiers-lieu, les réseaux régionaux qui ont tous été mis à... C'est eux qui ont porté ces débats, c'est eux qui sont allés dire voilà combien il y en a, voilà ceux qu'on recense, mais ils n'ont évidemment pas recensé la totalité, ils ont recensé ceux qui s'expriment en qualité de tiers-lieu. C'est pas nous qui l'avons décidé, c'est pas dans un coin de table, il y a eu un recensement qui a été porté par les acteurs eux-mêmes.
Si je vais au boulanger, non, attends, est-ce qu'il va me servir un steak? Je vais au boulanger, il me sert une baguette, il ne me sert pas un steak, tu aurais dû dire, mais c'est pas de tiers-lieu que vous parlez.
Mais c'est ta définition du tiers-lieu.
Ah non, c'est celle de Buret.
Non, mais Buret a fait une définition à un instant. Le monde a changé. Le sociologue de demain donnera une autre définition du tiers-lieu. Le monde est en métamorphose. Les tiers-lieux sont en métamorphose. Ce que fait main-d'œuvre n'est pas ce que faisait main-d'œuvre au début. Il y a d'autres choses qui sont... Ça s'est agrégé, ça a muté. Et cette mutation, elle peut être heureuse ou pas heureuse. Le débat entre nous n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien, on peut l'avoir. Mais il s'est structuré par des acteurs sociaux, des configurations sociales qui se reconnaissent dans ce qu'on appelle communément, ce que les acteurs sont appropriés le mot tiers-lieu.
Donc il y en a des millions alors.
Mais peu importe, je dis juste, ces configurations sociales qui se sont reconnues au travers des acteurs qu'on reconnaît tous comme étant en effet des acteurs. Il y en a beaucoup d'historiques d'ailleurs. Ici, autour de la table, il y en a au moins 3 sur 4. Donc, la question n'est pas de savoir combien, pourquoi on en a recensé 3500, mais pourquoi 3500 se sont reconnus dans le mode d'expression tel qu'on identifiait, tel qu'on imagine, tel que collectivement aujourd'hui, le mot tiers-lieu vaut. Il n'est pas ce qu'il était hier, tu as raison. Il est autre chose, mais il est aussi ça. Et il ne faut surtout pas perdre ça. Il faut aussi entendre ce qu'il est en train de devenir. Et il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils deviennent ce qu'ont été les organisations institutionnalisées telles qu'elles l'ont été, parce que je veux bien qu'on parle de la Croix-Rouge pour le lien de la connaître de l'intérieur. Si elle fait tiers-lieu, c'est parce qu'elle doit se renouveler dans sa manière de penser sa configuration sociale elle-même. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est la question centrale, c'est qu'au cœur du mouvement tel qu'il s'exprime, c'est la réalité de ceux qui font qui est plus puissante que la réalité de ceux qui parlent. Et nous, notre enjeu à nous aujourd'hui dans cette association d'acteurs, c'est de faire toujours plus confiance à ceux qui font qu'à ceux qui parlent. C'est ça notre sujet. Et après.
Et donc les considérer, alors pas les reconnaître, les considérer, ceux qui font.
Non, mais moi je reconnais personne, j'ai pas cette.
Ah si, t'as commencé par dire je vous reconnais.
Non, j'ai jamais
moi,
dit.
Moi je te demande de considère-nous.
Non, mais moi je n'ai pas à considérer ou à reconnaître. J'ai dit que les acteurs avaient demandé une reconnaissance. C'est ça que j'ai dit. Moi je n'ai pas à reconnaître ou à considérer qui que ce soit. Je considère comme tu considères les êtres. Je ne sais pas, reconnaître, qui je serais pour reconnaître.
Reconnaissance, considération. Je voulais juste qu'on close ce premier temps du débat et ensuite on va venir dans le cercle débattre avec vous, de dire sur l'institutionnalisation et les relations avec le secteur public, est-ce qu'il y a des configurations intéressantes qui sont mises en place dans les lieux pour coopérer avec un acteur public ? On parle beaucoup des coopératives, on parle beaucoup de... le régime de subvention qui peut parfois assujettir des lieux. Donc, je sais qu'à main d'œuvre, vous avez une forte pratique de ces systèmes-là. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans le dialogue avec l'acteur public ? C'est quoi un peu les limites de ça ? Est-ce que ça fonctionne ? Les SIC, est-ce que ça marche, en fait ?
Alors, les SIC, on peut en reparler. En tout cas, sur le dialogue, effectivement, nous, pendant un temps, en tout cas, dans les temps que j'ai vus, moi, on a accueilli un service de la PJJ au sein de main d'œuvre. Et j'ai vu pas mal de lieux au 6B, c'est arrivé aussi, ou pleine commune, à défaut de pouvoir subventionner le lieu, avaient décidé de s'installer à l'intérieur. Je trouve que c'est un modèle qui est hyper intéressant quand tu arrives à construire, plutôt que d'essayer de trouver un moyen de financement qui ne marchera pas, où la collectivité, une école ou différents services publics, s'installent à l'intérieur du lieu. Ça, je trouve que c'est une vraie victoire de dialogue réussi, de réussir à accueillir le service public au sein d'un tiers-lieu. Je trouve que c'est important d'y réfléchir, de le proposer, et c'est un beau mode de fonctionnement commun. Après, la coopérative d'intérêt collectif, évidemment, je pense que c'est une solution, et que même si c'est encore très difficile, même s'il y a une loi depuis 2014, je pense qu'il ne faut pas renoncer à ce format-là, c'est-à-dire que c'est un cadre juridique qui permet à la collectivité d'accéder, en tout cas, à une hybridation du dialogue. Et ça, même s'ils ne sont pas prêts, même si ça les dérange d'avoir une seule voix à la fin, même si, etc.,
ça
il faut continuer de persévérer à les convaincre que c'est un des modes de réalité, en tout cas, de faire ensemble. Et que ça, il nous reste un peu de chemin.
Juste sur cette question financière, je pense que c'est un vrai sujet. Et là, pour le coup... je le dis chaque fois qu'on avance. Moi, je voudrais saluer le programme, par exemple, Manufacture de proximité, qui a apporté à des acteurs qui en avaient besoin des capacités pour faire des choses XY. Il faut faire très attention avec l'argent public, pour deux raisons. D'abord, parce que quand il y a trop d'argent public, il y a risque de soumission. À la fin, si ça n'est idéologique, c'est financière. Et donc moi, je vous le dis comme je le pense, nous avons le devoir d'aller chercher de l'argent ailleurs, d'essayer de construire un modèle dans lequel on sera capable à chaque fois d'avoir un peu plus d'argent privé au sens global du terme, c'est-à-dire non public, pour conserver cette tension à l'intérieur, y compris des modalités de financement. Je suis très inquiet, je le dis, et je pense d'ailleurs que ça ne tient pas durablement, et c'est pour ça que je pense que l'argent à la fois est nécessaire et à la fois est dangereux, et je pense qu'il faut en être très conscient. C'est quand on monte, on est entrepreneur social, comme vous l'êtes tous, on l'est tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, quand on monte un dispositif de cette nature et qu'on est soumis à la puissance publique, ça donne des risques majeurs, y compris quand on est sur un espace public. On voit bien ce qui s'est passé avec main d'œuvre, la manière scandaleuse avec laquelle s'est passé le dispositif. Mais c'est vrai aussi, je cherche à... comment s'appelle l'endroit ? Enfin, il y a plusieurs endroits où des élus arrivent. Pardon ?
Certes, à Toulouse.
Ou à Toulouse, etc., etc. Enfin, il y en a eu un paquet. Et donc, quand on dépend de la puissance publique, on a un risque supplémentaire de perdre... et de risquer d'être focalisé sur quelque chose qui n'est plus de faire tiers-lieu, qui n'est plus de placer la configuration sociale et les enjeux de fond, et qui nous met dans une tension. Donc la question de l'argent public, et la question de sa place dans un dispositif économique pour que vive un tiers-lieu est évidemment un sujet sur lequel on devra se pencher dans le futur. C'est d'ailleurs pour ça que des experts, et pour le coup des experts, des acteurs, ont fait, pour le programme Manufacture, ont challengé, il y a un programme d'incubation pour voir si oui ou non le modèle tient. Ceci, c'est pour faire un modèle qui ensuite meurt. Ça pose des questions le lendemain matin, y compris d'ailleurs d'utilisation de l'argent public. C'est un autre sujet par ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, sur ce sujet précisément de l'innovation publique, il y a un atelier cet après-midi qui sera animé par Eugénie, qui est peut-être avec nous. Comment ? Par Marthe ? Ah bon, je crois que c'était Eugénie qui l'animait. Et ce sera bien quand même. Et donc, donc ça aura lieu cet après-midi, puisqu'en fait, la question de l'innovation publique est quand même au cœur de ce qu'on est en train de faire ici tous ensemble. Parce qu'on peut ne pas être d'accord et avoir des avis différents sur plein de sujets, mais après se pose très rapidement la question de comment on finance les coopérations, comment on finance les communs, quels sont les outils à notre disposition pour le faire. Et donc là, on va être un peu dans le faire, donc c'est ce qu'on va challenger dans cet atelier qui aura lieu à 14h30 sur l'action publique et les tiers-lieux. Il y a également le tiers-lieu éphémère où toutes ces questions seront posées et auxquelles je vous invite à contribuer, à documenter. Tout ce qu'on se dit là va être ensuite positionné sur les désaccords féconds qu'on a mis en place dans le tiers-lieu éphémère. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la deuxième partie de notre débat. Alors déjà, je vous remercie de vous être prêté au jeu. Je remercie Thomas aussi pour le plateau radio qui me faisait des petits signes sur la durée. Je pense que tu as réussi à capturer tout ça. On le retrouvera puisqu'on s'est enregistré tous. Et on va enregistrer aussi le débat qui va suivre. Donc on va descendre dans l'arène, comme on dit. N'hésitez pas à vous positionner sur les sièges. Voilà, si vous avez envie de prendre la parole. Et moi, mon rôle va beaucoup s'alléger puisque ça va consister à vous rappeler qu'une fois que vous avez parlé, vous pouvez reprendre place dans le public et laisser votre place à quelqu'un d'autre.
Un grand merci à tous nos partenaires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des territoires, la région Grand Est, l'Eurométropole de Metz, le réseau régional des tiers-lieux en Grand Est et le tiers-lieu Blidac qui, par leur soutien, ont rendu possible la réalisation de cette rencontre nationale. Merci également au Media Lab du WIF pour l'enregistrement et la production de ce podcast. Merci pour votre écoute et si vous souhaitez poursuivre les débats, n'hésitez pas à rejoindre l'Association nationale des tiers-lieux.